Partage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle.
À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h.
Sur Radio Libertaire 89.4 FM.
Carapatage
contre toutes les cages.
Bonsoir, vous êtes bien dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Aujourd'hui, c'est le numéro 85 et on va, après plusieurs brèves, écouter une rediffusion d'un podcast, d'une émission faite par Minuit Décousu autour de la version audio de Milo, l'incorrigible. Donc on sera pas en direct, mais presque en tout cas en direct pendant une demi-heure et ensuite... en différé jusqu'à 22h. Donc je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos anciennes émissions et celle-là aussi très vite sur le blog carapatage.noblogs.org. Qu'on peut aussi nous suivre sur Insta @carapatage et que vous pouvez nous écrire par mail à carapatage@riseup.net et par boîte postale au 4 Villa Stendhal, 75 020 Paris. Donc, ce soir, je suis avec... C'est une émission un petit peu exceptionnelle, on n'est que deux. Donc, je suis avec, en studio...
C'est Alix, salut.
Et voilà, pile, salut. Et donc, on va commencer par une petite mise à jour sur les prisons de haute sécurité dont on a déjà parlé dans une précédente émission.
Ouais, du coup, je vais faire un peu une mise à jour de ça. On en a déjà parlé. Ça fait quelques temps que Darmanin nous dit qu'il va y avoir une loi contre le narcotrafic et que dans cette loi, il y aura la création de prisons de haute sécurité pour les 200 plus gros narcotrafiquants. Et ce qu'on disait dans la dernière émission, c'est qu'il y avait quelques précisions déjà qui étaient tombées sur les conditions de détention qui auront lieu dans ces prisons, avec l'impossibilité d'avoir accès aux UVF, la suppression du téléphone en cellule et le développement de la visioconférence pour un maximum de choses pour éviter les extractions, donc notamment des visioconférences pour tout ce qui est judiciaire et médical. Et on apprend aussi que dans les conditions, il n'y aura pas de contact possible entre détenus, y compris dans les promenades. En gros, ils sortiront en promenade à plusieurs, mais avec interdiction de se parler et de communiquer. Pas de contact physique possible au parloir, où il y aura des grosses vitres pour séparer les détenus des proches. Et du coup, ce qui était annoncé, qu'il y aurait deux créations du coup, de prisons de haute sécurité, et finalement, c'est deux prisons déjà existantes qui vont adopter du coup pour les... qui vont chacune enfermer 100 personnes condamnées pour narcotrafic, du coup, qui seront soumises à ce régime-là. Et du coup, les deux prisons qui ont été annoncées, c'est Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais et Condé-sur-Sarthe dans l'Orne, donc qui sont déjà, qui comptent déjà parmi les deux prisons les plus sécurisées de France. C'est pour ça qu'ils ont choisi ces tôles-là aussi. Mais du coup, où il y aura pour ces 100 personnes des conditions encore plus durcies que ce qu'il y a actuellement à Vendin et à Condé. Les 100 détenus du coup, qui doivent être soumis à ce régime, ça sera à partir du 31 juillet à Vendin, ce qui est annoncé, et à partir du 15 octobre pour 100 détenus à Condé. Voilà, ça risque... d'être vraiment chaud. Donc on pense aux gens concernés. Et il y a aussi le risque que ce genre de régime, ça se multiplie parce que du coup, c'est censé concerné pour l'instant, du coup, les 200 personnes dont il a parlé. Mais il y a d'autres gens qui sont aussi enfermés dans ces deux tôles-là. Et y a quand même le risque que ces conditions-là, elles soient étendues aussi aux autres détenus dans ces deux tôles. Et il laisse aussi sous-entendre Darmanin dans les annonces actuellement que, que c'est un peu une sorte de test, quoi, qu'il y aura ça... D'abord pour 100 personnes à Vendin, 100 personnes à Condé, et que par la suite, potentiellement, ça pourrait être diffusé dans d'autres tôles aussi.
Ouais, et du coup, moi, je voulais vous parler de Fabrice qui dénonce déjà ces conditions qu'il subit à la prison de Vendin de Vieille. C'est un prisonnier longue peine dont on a déjà parlé dans cette émission. Et donc... Là, je vais vous lire une lettre dans laquelle il raconte un peu ce qui se passe pour lui récemment. Donc, il écrit le 25 février 2025. « Salut les amis. Je vous écris pour donner de mes nouvelles. J'espère que vous allez bien. Moi, depuis mon arrivée à Vendin-le-Vieil le 27 juin 2022, je n'ai subi que des humiliations, du racisme et de la discrimination. Par exemple, le fait le plus marquant, c'est le 15 février 2025, lors de ma sortie de cellule à 8h du matin. Je marchais dans le couloir, il y avait 4 surveillants, et un faisait des cris de singe et m'a traité de sale nègre et de macaque. Croyez-moi, j'ai mordu ma lèvre pour ne pas les frapper, vu que depuis l'âge de 8 ans, je fais de la boxe thaï, sachez-le. Mais ce n'est pas fini. Quelques jours plus tard, ce même surveillant raciste m'a palpé lors de ma sortie de cellule et a dit à son collègue « Ce nègre est dégueulasse », en essuyant ses mains sur son pantalon. Sachez-le. Le directeur de Vendin et les chefs du QMC3 couvrent ces matons dans leur racisme et leurs abus de pouvoir. Et je trouve ça injuste. Il n'y a pas de justice pour les Noirs et les Guadeloupéens comme moi, les amis. Bon courage à vous tous et à tous les soldats qui se battent pour la liberté. L'ami Fabrice dit papillon. Donc ça, c'est une lettre qu'il a envoyée à l'envolée. On mettra sur le blog le lien vers l'envolée qui relaie... cette lettre. Et donc, il y a un communiqué des proches de Fabrice Borromée qui est sorti suite à sa lettre, entre autres, et donc qui raconte un peu son histoire et qui dit qu'il est enfermé depuis 2010 et qu'il a été déporté en métropole en 2011. Voilà, chose assez courante, en fait, d'envoyer des gens hyper loin de leurs proches de l'autre côté des océans. Et donc lui, il réclame son transfert en Guadeloupe depuis en fait qu'il a été déporté. La paix a, il a retenu des membres du personnel dans l'espoir d'être enfin entendu. Donc il a été condamné pour prise d'otage. Il est entré en prison pour une peine de 8 ans. Et en fait, il y est depuis beaucoup plus longtemps. Il a été placé... dans un quartier de haute sécurité et aujourd'hui il est encore isolé. Ça a eu des conséquences sur sa santé, entre autres à cause d'une grenade assourdissante qui a été jetée par des surveillants dans la douche où il était. Qui lui a fait une grave douleur et perte d'ouïe à l'oreille. Et il a des problèmes de santé assez difficiles, dont un ulcère, entre autres lié au stress de la tôle, à l'enfermement. Et donc depuis qu'il est à la prison de Vendin, il subit pas mal d'injures et de provocations racistes. Et Fabrice demande à ce que ce soit public, qu'on informe le plus possible de sa situation et qu'on le soutienne. Et donc, ses proches ont écrit une lettre type qu'on peut envoyer à la direction de l'administration pénitentiaire et à la direction interrégionale des services pénitentiaires du Grand Nord. Cette lettre, vous pouvez la retrouver dans le lien qu'on mettra sur le blog, là, sur le site de l'Envolée. Voilà. Force à lui, en tout cas.
Ouais. Moi, je vais parler maintenant de deux matons qui ont été condamnés pour violence. Donc, c'est deux surveillants de la prison de Mulhouse qui ont été condamnés la semaine dernière, je crois, à 2 ans de prison, dont un an avec sursis pour l'un et 18 mois, dont 9 mois avec sursis probatoire pour l'autre, et qui feront leur peine sous bracelet. Ils ont été condamnés du coup pour les violences sur un détenu qui avait tenté de mettre fin à ses jours et qu'on avait retrouvé avec une lettre dans ses mains qui expliquait un peu ce qu'il avait subi. Pour faux et usage de faux, parce que bien sûr, ils ont fait un rapport pour essayer de se couvrir quand les choses ont commencé à trop sentir mauvais pour eux. Et il y a eu aussi deux relaxes. Donc il y en a eu deux qui ont été condamnés et deux qui ont été relaxés. Et en plus des peines qu'ils ont eues, ils ont aussi eu une interdiction définitive d'exercer, du coup, pour les deux condamnés. Du coup, voilà, on peut se réjouir que ça fera toujours deux matons en moins qui auront le droit de continuer d'enfermer d'autres personnes. Voilà, ce procès, c'est aussi, quand on voit le discours de la proc, c'est aussi faire croire que la violence en prison, elle serait uniquement le fait de quelques matons qui respecteraient pas les règles et qui, en gros, auraient rien à faire là. Elle parle de matons qui jettent l'opprobre sur toute une profession. Et ça parle pas du tout du fait que les violences, c'est quelque chose... de quotidien en prison et encore plus au QD, au mitard, là où ça s'est déroulé, les faits qui leur sont reprochés. Voilà. Et que ce serait quelques pommes pourries qu'il faudrait dégager du panier, mais pas de la violence comme mode pour faire régner la discipline en détention.
On va changer de pays. On part aux États-Unis où, depuis mi-février, il y a des milliers de matons qui se sont mis en grève dans l'État de New York pour protester contre une loi qui date déjà d'il y a deux ans, qui, plus de deux ans, limite l'usage du placement en confinement. Ils demandent des meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail. Bon, rien de très original. Ça se passe aussi dans le contexte d'une grève qui n'a pas été initiée par les syndicats, mais à la base, suite à l'inculpation de 10 matons qui ont tabassé à mort Robert Brooks, un prisonnier à la prison, qui était prisonnier à la prison de Marcy en décembre dernier. Et donc, sans faire exprès, ils ont filmé le meurtre raciste qu'ils ont fait sur leur caméra. Et donc, ça a quand même rendu visible l'horreur qu'il y a dans les pays, dans les prisons. Cette grève, pour soutenir ces matons inculpés, entre autres, et toujours leurs petites conditions, c'est quand même énormément, enfin plus de 8000 matons et 36 prisons sur 42 prisons où il y a une grève. Alors, il y a eu un accord fin février entre le gouvernement et les syndicats, et donc la loi, elle était suspendue. Et il n'y aura pas de sanctions pour les grévistes pendant le travail. Mais du coup, pendant cette énorme grève, il y a au moins 7 prisons qui sont décédées, tuées par la tôle et ses matons, donc leur grève. Et dans certaines prisons, les prisonniers ont été privés de nourriture chaude, de douche. Ils n'ont pas pu être transférés au tribunal pour leur audience. Voilà, des choses assez... qu'à chaque fois que les matons se mettent en grève, arrivent. Mais ils ont été privés de leurs médicaments, de soins psychiatriques. Toutes les visites ont été suspendues, famille ou avocat. Et donc, les activités aussi, les passages d'infirmiers ou de médecins. Donc voilà, le manque de soins. Et du coup, il y a deux prisonniers dans une prison à Auburn qui sont morts faute de soins. Et aussi privés de promenade. Donc pendant plus d'une semaine, les personnes ont été confinées dans les dortoirs. Il y a une personne qui s'est pendue sans que personne n'intervienne. Et donc, c'est les gardes nationaux qui ont été mobilisés. On verra après aussi, entre autres, pourquoi. Mais eux, ils étaient pas contents parce qu'ils n'avaient pas assez de gaz lacrymogène et d'équipement de protection. Et on leur servait la même nourriture qu'aux prisonniers. Donc voilà, ils se sont plaints dans les médias et dans la presse de ça. Donc, il y a plusieurs témoignages de prisonniers qui racontent un peu... comment ils se sentent et comment ils se sont sentis pendant cette grève et aussi comment sont morts les gens qu'ils ont entendus crier, appeler à l'aide, et en fait, où il n'y a pas eu de réponse de la part des gardes nationaux qui étaient là. Voilà, et pendant cette grève, il y en a des prisonniers qui ont profité pour se révolter dans plusieurs prisons du comté de New York, donc dans le centre correctionnel de Collins. Les prisonniers ont pris le contrôle de 3 dortoirs et se sont barricadés à l'intérieur. Les matons ont fini par reprendre le contrôle, mais il y a eu plusieurs matons blessés. Ensuite, dans le centre correctionnel de Riverview, je prononce très très mal, ils se sont aussi révoltés, ils ont pris le contrôle de plusieurs dortoirs, et du coup la vingtaine de matons qui restaient a fui et a perdu le contrôle. Et donc le gouverneur de l'État a envoyé 3500 troupes de la garde nationale pour sécuriser toutes les prisons. Et donc les 42 prisons, même celles où il n'y avait pas grève en fait, ont été placées en quarantaine. Et donc voilà, avec donc toutes les conséquences qu'on vient d'évoquer auparavant. Et eux, voilà, ils ont laissé les prisonniers, enfin les matons, sans eau ni nourriture. Et il y a eu un peu de solidarité à l'extérieur. En tout cas, il y en a un exemple qui est sorti dans l'État de New York, où il y a deux véhicules de l'AP de New York qui ont été incendiés, dont un qui a été tagué avec « Vous pouvez-vous nous entendre maintenant ?» Voilà. Et on reste aux États-Unis.
Ouais, je vais revenir sur ce qui s'est passé ces derniers jours, l'expulsion de détenus vénézuéliens des États-Unis à une prison de haute sécurité au Salvador, suite à un décret qu'a pris Trump. Donc déjà en février 2025, il y avait le président du Salvador qui avait annoncé que si les États-Unis voulaient, eux, ils pouvaient prendre des prisonniers des États-Unis pour les enfermer au Salvador. Donc aussi avec, comme dans beaucoup de politiques d'externalisation, avec des accords financiers derrière. Ou en disant que l'argent que ça permettait, ce transfert de prisonniers, ça allait aussi permettre de faire tourner tout le système carcéral au Salvador. Et où Trump, lui, ça lui coûte aussi, enfin aux États-Unis, ça coûte aussi moins cher d'accepter cet accord et d'envoyer des détenus se faire enfermer en dehors des États-Unis, quoi. Et du coup, il y a eu 238 prisonniers vénézuéliens présumés membres de gangs qui ont été transférés du coup des prisons des États-Unis à la prison de haute sécurité au Salvador. Pour pouvoir faire ce transfert, Trump il a pris un décret en se basant sur une loi de 1798 qui n'avait pas été réutilisée depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui est censée être une loi de guerre, quoi, qui permet au président des États-Unis d'arrêter et de renvoyer des citoyens d'une nation ennemie vers un autre pays sur simple décret. Du coup, voilà, c'est sur cette loi qui s'est basée pour pouvoir faire le décret qui a permis l'expulsion. Ce décret, il a été contesté devant un juge qui a rendu comme verdict que, effectivement, que normalement Trump, il n'aurait pas dû prendre ce décret-là, qu'il n'avait pas à se baser sur cette loi-là. Mais du coup, les gens ont été expulsés quand même. Et ce qui a été dit par Trump, c'est que les avions, ils avaient déjà décollé quand le verdict est tombé. Et que du coup, ça rendait pas possible d'annuler la décision qui avait été prise. Ces 238 personnes, elles sont enfermées au centre de détention pour terroristes CECOT, qui a été inauguré fin janvier 2023 au Salvador. C'est une maxi-prison de 40 000 places qui a été construite en 7 mois à l'époque dans toute ce que le président appelle la guerre contre les groupes criminels, donc qui vise vraiment les membres de gangs. Et voilà, c'est une prison où il y a beaucoup de tortures, beaucoup de surpopulation, des conditions vraiment hardcore, Il y a certaines cellules, enfin si ce n'est toutes, où il y a que des lits métalliques, où il y a même pas de matelas pour les détenus. En décembre 2023, après quelques mois, il y a Amnesty International qui parlait du remplacement progressif de la violence des gangs par la violence de l'État, en parlant du Salvador et plus précisément de cette prison-là. Parce que c'est un pays où il y a un des taux d'incarcération les plus élevés au monde, lié justement à cette guerre contre les gangs qui est mise en avant par le président du Salvador.
Et on retourne en Grèce, après voilà, ce petit passage merveilleux aux États-Unis, au Salvador. En Grèce, récemment, il y a eu des grosses mobilisations fin février, donc ça fait déjà plus d'un mois, mais l'info n'était pas trop arrivée jusqu'à nos oreilles. Et maintenant, voilà. Il y a eu, donc, vers la fin février, une grosse mobilisation suite à, aux 2 ans de l'accident de train qui avait fait plus de 50 morts en Grèce. Un accident de train où l'État est mis en cause et au-delà du mauvais entretien des infrastructures ferroviaires, aussi dans un processus de dissimulation des preuves directement suite à l'accident. Et donc là, 2 ans plus tard, voilà, bah, y a toujours une lutte et une grosse mobilisation. Donc il y a eu une grosse grève générale dans tout le pays. Et qui a aussi, et en solidarité, à l'intérieur, il y a eu une mobilisation des détenus dans plusieurs prisons grecques qui ont écrit un communiqué de blocage, de fermeture donc, du midi, donc de refuser la fermeture des portes pour l'heure du midi, qui a été signé par, nominativement par plusieurs personnes dans différentes prisons, qui demandent justice pour les 57 morts de Tempe. Et aussi dans une tôle plus précise de Domokos, il y a eu voilà, une sorte de grève de la faim de repas de ce jour-là, quoi. Voilà, donc une mobilisation bah, hyper massive à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur des prisons. Et donc ça, c'est assez chouette de voir qu'il y a une forme de communication intérieure-extérieure. Et du coup, on espère que bah, cette communication, elle va aussi en solidarité de l'intérieur vers l'extérieur aussi. Et d'ailleurs, il y a eu devant le 8 mars, par exemple, une manifestation devant la prison... devant la prison d'Athènes. Voilà. Une prison pour femmes. Et je vais donc maintenant, on passe à... Enfin, agenda communiqué.
Non, juste un dernier point. Je vais faire un petit point aussi sur l'expulsion de la Gaîté Lyrique hier. Donc hier, le 18, il y a eu l'expulsion de la Gaîté Lyrique, une salle de spectacle à Paris, qui était occupée depuis mi-décembre 2024 par des mineurs isolés en attente de recours pour faire valoir leur minorité, car présupposés majeurs et qui dormaient à la rue en attente du recours. On a déjà parlé de cette occupation dans d'autres émissions. À la fin de l'occupation, il y avait plus de 450 jeunes qui dormait à la Gaîté, et il y a un énorme dispositif policier qui a été déployé pour procéder à l'expulsion. Je vais lire le communiqué du collectif des jeunes de Belleville qui était à l'origine de cette occupation suite à l'expulsion. Expulsion de la Gaîté Lyrique, État fasciste, mairie complice. Hier soir, quelques heures après la parution de l'arrêté d'expulsion de la Gaîté Lyrique, nous nous sommes rassemblés massivement. Toute la nuit, des centaines de personnes se sont mobilisées en résistance aux côtés du collectif des jeunes du parc de Belleville pour exiger un toit pour toutes les occupantes. Rien dans cette opération ne s'est déroulé dans le respect du droit et des personnes présentes. Moins de 24 heures se sont écoulées entre la publication de l'arrêté et le début de l'expulsion. L'opération devrait commencer à 6 heures, les policiers nous ont chargés dès 5h40. Après cette première charge, nous avons attendu des heures dans le froid, nassés, sans pouvoir soigner les blessés. Nous avons ensuite été gazés, matraqués, interpellés arbitrairement et pourchassés dans les rues et bouches de métro. Aujourd'hui, nous avons subi le déploiement total du racisme dans l'indifférence de la plus grande mairie française dite de gauche. Racisme d'un gouvernement qui déploie un dispositif quasi militaire pour évacuer des jeunes déjà sortis du bâtiment occupé. Racisme des médias et des fascistes qui chaque jour nous ont harcelés et provoqués. Racisme de la police qui a séparé les associatifs des migrants pour procéder au contrôle d'identité, nous a traqués et interpellés jusqu'à dans les cafés adjacents. Racisme d'un système qui refuse de nous intégrer alors que nous demandons juste à vivre, étudier, travailler, être considérés comme égaux et égales. En un an, nous avons observé la lâcheté de la mairie de Paris. Alors que nous occupions la maison des métallos pour revendiquer un toit, la mairie disait que nous devions cesser d'investir leurs bâtiments et engager un vrai rapport de force avec l'État. Ces trois derniers mois à la gaieté, nous avons visibilisé notre combat et renforcé notre réseau de solidarité. Nous avons laissé l'opportunité à la mairie de se battre à nos côtés pour nos droits. Elle ne l'a pas fait, et pire encore. Ce matin, Madame Hidalgo a préféré intervenir sur la matinale de France Inter, estimant qu'à ce stade, c'est ce qu'il fallait faire, en parlant de l'expulsion brutale sans solution que nous venions de vivre. La mairie de Paris a menti en direct, en affirmant qu'il y avait des propositions d'hébergement à Paris. C'est faux. Un seul bus a été déployé direction Rouen, pour une durée de 3 semaines, la honte. Ce soir, tout le monde se demande où nous allons dormir, nous, les 450 jeunes expulsés, parce que même dans la rue, nous sommes traqués sans pouvoir nous déplacer librement, encore moins poser une tente. Des dizaines de personnes sont blessées, tout le monde est traumatisé. En tout, on dénombre une grosse cinquantaine d'interpellations. 6 de nos camarades en recours de minorité ont été libérés avec des OQTF. Une dizaine de jeunes sont toujours en garde à vue au commissariat du 18e et 12e, risquant un transfert en CRA. Nous n'avons jamais vécu une telle situation en plein Paris, que tout le monde prenne conscience de ce qui se joue autour de notre lutte. Il ne s'agit pas seulement du droit à l'hébergement pour les mineurs isolés, mais bien d'une bataille contre l'extrême droite et son monde. Nous appelons à un rassemblement dès maintenant devant les commissariats du 18e, rue de l'Évangile, et du 12e arrondissement, rue Aubrac, ce samedi 22 mars, à l'occasion de la marche internationale contre le racisme, rejoignez notre cortège. Du coup, petite précision, parce que du coup ça c'est sorti hier, donc les rassemblements devant les commissariats dont j'ai parlé, c'est les rassemblements qui ont eu lieu hier suite à l'expulsion. Donc voilà, il y a eu plusieurs jeunes qui sont sortis avec OQTF, je ne sais pas si tout le monde est sorti à présent ou pas encore. Il y a eu au minimum un placement en CRA à Vincennes aussi. Les jeunes ont été pourchassés, des jeunes qui ont été pourchassés autour de Belleville, à Pont-Marie, là où ils ont l'habitude de mettre des camps avant l'occupation de la Gaîté Lyrique, parce que probablement, ils se doutent bien qu'en expulsant des gens sans aucune solution, ils vont bien dormir quelque part et que va bien y avoir des tentes qui vont réapparaître. Ce soir, on sait aussi qu'il y a des tentes qui ont été arrachées par les flics au parc des Beaumonts à Montreuil, parce que c'est là où plusieurs avaient passé la nuit dernière. Donc voilà, première précision. Et la deuxième, sur la manif dont il parle à la fin le 22 mars, du coup ce samedi, ce samedi, il y a des manifs qui sont organisées un peu partout en France pour la journée mondiale contre le racisme et le fascisme. Et du coup, pour Paris, le rendez-vous, c'est 14h à République.
Ouais, et moi, je vais vous lire l'appel à une autre manifestation qui aura lieu, donc pas ce week-end, mais le week-end suivant, qui sera donc le dimanche 30 mars, avec un rendez-vous aussi à 14h, mais à Place de la Réunion, dans le 20e arrondissement à Paris. Je vais vous lire le texte. Depuis la loi raciste de Darmanin début 2024, les élections législatives de juin et leurs 121 députés RN, les politiques de droite comme de gauche sont en roue libre. On enchaîne les lois racistes. Loi Darmanin, circulaire Retailleau, annonce de construction de CRA, loi antisociale, RSA, loi Kasbarian, ou tout simplement répressive. Comparution immédiate pour les mineurs à partir de 16 ans, pouvoir renforcer des agents de sécurité ATP, vidéosurveillance algorithmique pérennisée. Pour nous faire chier au quotidien. Tout ça s'accompagne de discours nauséabonds. Grand remplacement évoqué à l'Assemblée, submersion migratoire martelée sans problème au sommet de l'État, récupération des luttes contre les violences sexistes et sexuelles, à des fins racistes et xénophobes, obsession pour les OQTF et la répression des étrangers délinquants.
Cela se traduit par des constructions de nouveaux CRA et prisons, 10 nouveaux centres prévus pour 2027, une super prison pour les narcotrafiquants, et la répression des luttes et des révoltes. Nahel, Kanaky, Martinique, instructions et affaires antiterreaux de partout. Ce racisme décomplexé donne des ailes aux FAF qui, à Paris, viennent pointer leur sale tête jusqu'à la Gaîté Lyrique, occupée par des mineurs isolés, SIC. Attaquer une projection antifasciste et des manifs de sans-papiers. Le tout dans une ambiance générale carrément apathique. Pour nous, ce qui se passe aujourd'hui est dans la continuité de l'histoire de l'État français, qui a toujours joué sur la détestation des étrangers ou assimilés comme tels, depuis les lois immigration italienne et polonaise anciennes jusqu'à aujourd'hui. Pour justifier une précarisation, des bidonvilles aux cités de transit, à la ségrégation dans les quartiers, et une répression. Création des CRA, brigades nord-africaines, devenues la BAC d'aujourd'hui, meurtres policiers, toujours croissante de ceci. Un État ne peut se maintenir qu'en créant des frontières, permettant de trier des personnes et de créer des divisions entre une soi-disant population nationale qui aurait le droit de vivre sur un territoire donné et des étrangers. Ces frontières contrôlent, enferment, tuent et continueront de tuer tant qu'elles existeront. Une perspective révolutionnaire qui viserait à détruire le racisme et toutes les oppressions doit donc inclure la nécessité d'abattre l'État. Ici, on veut faire une précision importante. Le racisme n'est pas spécifique à la droite ou à l'extrême droite, même si on l'assimile plus à elle actuellement. Les CRA ont été créés par le PS il y a 40 ans. La gauche, tout parti confondu, sort encore régulièrement des dingueries, en faisant le tri entre les bons immigrés qui bossent et s'intègrent et les autres. Par exemple, la CGT réclame de la régularisation des sans-papiers qui travaillent, mais pas de tous les sans-papiers. Mélenchon veut garder les étrangers qui payent leur TVA ou donner la nationalité aux médecins étrangers. Le PS trouve normal de débattre de l'identité nationale. Même les milieux militants s'en remettent parfois au mythe de l'existence d'une identité nationale française pour combattre le racisme. Il ne faut rien attendre d'une quelconque autorité, qu'elle se dise de gauche ou de droite, nous devons construire des luttes autonomes pour aboutir à nos fins. Fuck la politique, son spectacle et son jeu démocratique qui restera jamais qu'un chien de garde de ce vieux monde qu'il faut détruire. Les gens n'ont pas attendu ces constats et cette ambiance puante pour se mettre à lutter contre ce système dégueulasse. En ne citant que la lutte contre les CRA, les retenus se révoltent continuellement contre leur enfermement et brisent ainsi leur isolement, que ce soit par des grèves de la faim, des évasions ou en foutant le feu. En 2024, au moins 5 incendies ont eu lieu dans des CRA en métropole et plus d'une quarantaine de retenus ont réussi à se faire la belle. Et à l'extérieur, des personnes en soutien visent, pleines de rage, la destruction des CRA. Tag, parloir sauvage, lien avec l'intérieur, action de sabotage et d'attaque contre la machine à enfermer. Boîtes privées, État, co-gestionnaires de la misère comme France Terre d'Asville, Asfam. Lutter contre les CRA, les frontières et l'enfermement, c'est se révolter ici et maintenant. C'est ne rien attendre pour exprimer sa rage contre ce monde et ce système qui enferme des personnes parce qu'elles n'ont pas les bons papiers. C'est comprendre que pour détruire, il faut s'attaquer à toutes les autres oppressions, au pouvoir, quelle que soit sa forme, et aux États, quels qu'ils soient. Pour cela, on doit se rencontrer, échanger, discuter, s'organiser de façon autonome à nos échelles, sortir de l'atomisation dans laquelle on nous maintient. Cette manif se voudrait donc être modestement un de ces moments de rencontre, en espérant qu'elle puisse lancer une dynamique plus large de lutte. Multiplions les actions autonomes, les manifs, les tractages, les discussions, les rencontres, les sabotages et les attaques. Brûle les CRA, les prisons et leur monde de merde. Mort au pouvoir, aux partis et aux États. Vive les luttes autonomes, l'auto-organisation et la vie libre. Et donc pour rappel, c'est un appel à une manifestation qui aura lieu le dimanche 30 mars, place de la Réunion à 14h. Et maintenant, on va vous parler d'une réunion, pas du tout. Une manif qui aura lieu ce week-end contre une construction de prison à Toulouse.
Ouais, il y a une manif anticarcérale du coup qui est prévue ce samedi 22 mars contre la construction de la nouvelle prison à Muret, donc proche de Toulouse. Et je vais lire l'appel. Les gouvernements successifs depuis 2017 ont prévu un plan prison de 18 000 nouvelles places, ce qui veut dire que tout un tas de nouvelles tôles vont être construites en France. C'est dans ce cadre qu'une nouvelle maison d'arrêt est prévue depuis plusieurs années à Muret, près de Toulouse. Elle s'ajouterait à la maison d'arrêt de Seyss et au centre de détention de Muret, pour enfermer toujours plus de personnes en Occitanie. Même si la construction de la tôle n'a pas encore commencé, elle s'inscrit dans un projet plus large de 180 hectares d'actuelles terres agricoles où veulent s'installer les usines de Pierre Fabre et tout un tas de boîtes comme McDo ou Action. La main-d'œuvre prisonnière pourra continuer à être exploitée tranquille. L'État, main dans la main avec les entreprises privées, intensifie toujours plus sa logique mortifère et répressive d'emprisonnement. Parce qu'on le sait, les nouvelles tôles ne sont pas conçues pour désengorger les vieilles, mais pour enfermer toujours plus d'indésirables. D'autant que les dernières propositions du gouvernement visent à systématiser l'enfermement, y compris pour les très courtes peines. Parce que la prison constitue une torture qui isole et bousille le corps et l'esprit, quelles que soient les conditions, on ne veut pas que davantage de personnes soient enfermées, ni que quiconque soit enfermé tout court. On ne pense pas non plus que la justice pénale puisse résoudre ou réparer quoi que ce soit. La logique punitive tue, surtout les plus précaires et celles et ceux qui sortent du rang et ne rend service qu'à l'État et aux intérêts du capital. Dans la continuité de la lutte contre la construction de nouvelles prisons et contre la prison tout court, rendez-vous le 22 mars 2025 à 14h sur la place de la République à Muret pour une manif autonome et anticarcérale, suivie d'un moment d'échange et d'un dépôt sauvage de rap. Donc voilà, 22 mars, 14h, place de la République à Muret.
Et avant d'écouter une petite musique suite à toutes ces lectures, donc on va écouter No Hope, No Fear de Borghesia. Cette musique, je l'ai trouvée dans une émission de radio qu'on peut retrouver sur le site de La Parole Errante Demain, qui recrase le contexte de l'affaire pour laquelle Gino, qui a été arrêté en France en novembre 2024, qui est donc incarcéré actuellement à la prison de Fresnes. Il a été arrêté pour une affaire pour laquelle plusieurs personnes sont en détention et d'autres sont sous mandat d'arrêt suite à une manifestation antifasciste en Hongrie. Et donc il y a eu une audience de Gino concernant son extradition en Hongrie le 12 mars dernier, et le rendu c'est le 9 avril, et il y aura entre les deux le rendu le 26 mars sur une assignation à résidence. Potentiellement. Donc cette musique, il paraît qu'elle lui plaît, donc on s'est dit qu'on allait la passer.
Savage place.
Vous êtes de retour dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages. On vient d'écouter No Hope, No Fear de Borghesia, en dédicace à Gino qui est à la prison de Fresnes. Donc maintenant, petite émission exceptionnelle, on va rediffuser une émission de Minuit Décousu, qui est une émission qui passe sur Radio Canut à Lyon. C'est une émission qu'ils ont diffusée en octobre 2024 et qu'ils ont fait à 4h du matin pendant la Nuit Décousue qui avait eu lieu en juin 2024, je crois. Donc, on a choisi cette émission parce que c'est une adaptation audio. Voilà, c'est une adaptation de Milo l'Incorrigible, dont on a déjà parlé dans cette émission, qui est un livre dont le sous-titre c'est Parcours carcéral d'un jeune insoumis à la belle époque. Pardon. Et donc, dans ce récit, dans ce livre, Milo va écumer de nombreux lieux, nombreux stalls de l'époque. Et c'est l'occasion aussi de revenir sur son histoire, qu'il a assez courte, parce qu'il va finir ses jours, en Guyane. Voilà, assez jeune. Donc ce bouquin a été écrit par le collectif L'Escapade. C'est le nom donné par les gendarmes à une des premières évasions collectives de Milo. Et donc on vous laisse avec... les personnes de Minuit Décousu qui ont fait cette chouette adaptation. Alors, attention, au début, vous ne pensez pas qu'on s'est planté d'audio. C'est normal, c'est un peu... c'est une mise en jambe, voilà. Et nous, on se retrouve début mars, le premier mercredi du mois, pour une nouvelle émission, en direct, cette fois. Et vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur carapatage.noblogs.org. Bonne écoute.
On est prêt à démarrer d'ailleurs là du coup ou pas?
Je crois, mais en fait il est où Bebe?
Il devait arriver normalement, mais je sais pas ce qu'il a foutu.
C'est relou parce qu'en fait c'était à lui de prendre la régie pour une fois.
Tu veux pas lui passer un coup de bigot? Il est peut-être à l'épicerie en train d'acheter des canettes.
Non mais il est gonflé, il a juste laissé... C'est quoi là qu'il a laissé? C'est un flyer du Front Populaire avec gribouillé derrière des trucs. Attends, j'arrive même pas à lire.
Attends, donne voir, il y a écrit... Tôle pour mineur, j'ai l'impression.
Ouais, c'est étonnant.
Vraiment une écriture dégueulasse. T'arrives à le joindre?
Deux fois sur son répondeur, mais là ça sonne.
T'étais pas avec lui cet après-midi aux archives, justement?
Si, mais on s'est séparés, j'avais des trucs à faire, et puis lui, il voulait continuer à bosser sur son truc.
Oh. Blabla, putain, lève ton silencieux parfois, non? T'en es où sur le point de commencer?
Ah merde, déjà, alors, tu sais, c'est un petit peu compliqué comme situation.
Comment ça, c'est compliqué comme situation? On comprend rien à ce que tu dis.
Je me suis laissé enfermer dans les archives, voilà.
Quoi? Merde, l'émission commence là, tu peux pas appeler la sécu?
J'ai pas vraiment fait exprès.
Comment c'est exprès?
J'étais sûr qu'il me cachait des choses, du coup, je suis resté pour continuer mes recherches, et puis j'ai trouvé plein de trucs, vous allez voir, c'est un truc de ouf.
Mais du coup, tu reviens...
Là, j'ai presque terminé, mais bon, j'ai pile dans ma frontale, ça commence à être vraiment casse-gueule, c'est un peu la merde, mais j'arrive.
Et ces archives planquées, c'est quoi?
C'est plein de dossiers. C'est un dossier sur l'incarcération des mineurs entre la fin du 19e et du 20e. Enfin, bon, vous allez voir, c'est très, 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 très lourd.
Et du coup, t'as quoi concrètement qu'on puisse lancer?
Il y a la sécu qui m'a entendu parler. Je suis coincé entre deux étagères, donc vous allez très, très bien vous en sortir. Je vois ce que je peux chourer avant de me barrer, et puis j'arrive, je rejoins.
Bon, alors qu'est-ce qu'il nous a envoyé?
Non mais déjà c'est le bordel, parce qu'en fait il a fait des vieilles photos toutes moches avec des flashs de partout, les fichiers sont pas numérotés.
J'ai l'impression que comme ça il y a beaucoup de coupures de presse des archives policières et judiciaires.
Il y a plusieurs fichiers anthropométriques mais il n'y a aucune photographie qui les accompagne.
Oula, il y a des trucs qui viennent de Seine-et-Marne, d'autres de Paname et même de Guyane. J'ai l'impression qu'il y a un nom qui revient à chaque fois, t'arrives à le lire toi?
Émile... de la Grange.
Il revient partout. Par contre, on sait pas à quoi il ressemble. Les photos dans les cartons montrent plein de gosses qui travaillent, mais aucune photo individuelle. Ça vous dit quelque chose, ce blase, vous?
Non, pas du tout. Je me demande pourquoi Bebe l'a fait ressortir comme ça.
Il a essayé de te rappeler déjà? Non, je crois qu'il a coupé son tel. On aura du bol s'il nous rejoint sans se faire péter. Ce serait couillon de passer la nuit décousue en gave.
Eh ben, on a qu'à s'y jeter. On va finir par y voir plus clair au fur et à mesure, j'imagine.
une enceinte imposante avec des murs de 6 mètres de haut.
On a recours à la détention de manière exceptionnelle en matière de mineurs.
Des barbelés courent le long des grilles.
La détention est parfois très utile pour enclencher un travail éducatif.
En 2008, le PM de Mézieux a enregistré le premier suicide de mineurs.
Ce sont des structures tout à fait adaptées pour les mineurs.
Est-ce qu'il ne faut pas tirer les conséquences que les mineurs d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier ?
Dans des centres éducatifs, s'ils sont jeunes, très durs.
Qu'il faut maintenant recourir peut-être à de la prison pour des gens plus jeunes.
Les établissements pour mineurs, il n'y en a que 6 en France.
La mineure, d'une manière incompréhensible, a refusé ce que lui disait la surveillante.
Et quand je suis un fils, je fais mieux de me tirer. J'ai rien voulu apprendre, j'ai rien voulu comprendre. Pour pas rêver, je serai jamais le premier.
La France est malade de son insécurité.
Les incidents détenus personnels ne cessent de se multiplier.
Ce type d'établissement sera maintenu et pérennisé.
Quand ils sont condamnés, il faut les sortir du quartier et les mettre dans des centres fermés.
Cet établissement est absolument adapté pour la délinquance des mineurs.
C'est ça.
On m'a toujours dit que j'étais né à Charonne, dans le nord de Paris, le 24 février 1884, au 75 rue d'Aveyron. Aussi loin que je me souvienne, c'est ici que j'ai toujours vécu. Ma famille a dû déménager à quelques mètres, au 27 de la même rue, à cause de difficultés financières. Mon père, Charles-Joseph Delagrange, a alors 50 ans. Il travaille comme coupeur de cravates. Mes deux plus jeunes frères sont également domiciliés dans le même arrondissement avant de se mettre en ménage avec ma mère, Marie-Aimée Christine Schneider. D'origine alsacienne, ma mère a 8 ans de moins que mon père. Elle s'occupe des 3 enfants et travaille à domicile comme blanchisseuse. Au niveau financier, tout n'est pas si évident. Ma famille doit payer 250 francs de loyer chaque mois et parvient difficilement à s'acquitter de cette somme. Mon père gagne 6 francs par jour, soit approximativement 145 francs par mois, et ma mère touche 1 franc et demi par jour de labeur. De plus, mon père connaît régulièrement des périodes de chômage et doit chercher de l'argent ailleurs. Ma famille est loin d'être la seule dans cette situation à Charonne. Nombreuses sont les familles comme la mienne à accumuler des dettes dans les commerces du quartier. En 1898, j'ai 2 frères et une sœur de 18 et 19 ans. Ils ont tous fini leur parcours scolaire et confectionnent des paniers, ce qui permet de ramener quelques sous supplémentaires à la maison.
Compte de la précarité des habitants de Charonne. Mais à l'époque, 21,8% des habitants du quartier ont engagé des objets au Mont de Piété. Ces officines s'apparentent à des organismes de crédit. Elles permettent de déposer des objets avec plus ou moins de valeur contre de la monnaie.
Mais du coup, dans tout ça, c'est quand qu'on retrouve la première trace d'Émile ?
Si j'en crois le document que j'ai sous les yeux, c'est dans un livret de plaintes du commissariat du quartier de Charonne. Le 20 juillet 1897, les keufs ont visiblement organisé une petite rafle et sont tombés sur le jeune Émile, rue de Volga. Il était en train de dépouiller des personnes au jeu de la passe anglaise. L'arrestation se solde par une simple contravention.
Donc il a 13 ans lors de la première arrestation et condamnation.
Ouais, c'est ça.
J'ai l'impression qu'on retrouve d'autres traces à la même époque, d'un Émile qui traînait avec une bande de gosses du faubourg, qui faisait tourner les flics en bourrique. Visiblement, il y a même une fois où ils se sont retrouvés à caillasser un flic en civil rue des Pyrénées pour libérer un de leurs copains. Mais il n'y a pas de nom de famille, donc on peut pas être sûr que ce soit bien lui.
Je termine ma scolarité le 1er août 1898. Je me fais de nouveau arrêter quelques jours plus tard, cette fois-ci pour avoir volé. Je comparais devant le tribunal correctionnel de la Seine qui me condamne le 11 août pour 8 jours de prison. Au tribunal, on croise autant des adultes que des enfants. Le juge me demande si j'avais conscience de mon acte, si j'ai agi avec discernement ou pas. Je crois comprendre que les peines décidées pour les enfants sont réduites par rapport à celles des adultes. Pour le coup, le juge me considère comme discernant et m'envoie à la petite roquette. C'est mon premier séjour en prison. Le jugement prononcé, je suis conduit dans le labyrinthe, des couloirs et des escaliers du palais de justice de Paris pour aller au service d'anthropométrie. Je passe alors par la dernière trouvaille de classification de la police. Les agents établissent un signalement descriptif et un signalement photographique, puis l'anthropométrie. On note ainsi que je suis blond aux yeux bleus, que je mesure 1m50, je ne porte aucune marque particulière, aucun tatouage ou cicatrice. Le lendemain de ma condamnation, je suis transféré du dépôt à la Petite Roquette, la prison spécialement faite pour les mineurs. On m'attribue alors mon numéro d'écrou, le 590. Le monde de la Petite Roquette est très différent de l'extérieur. Il n'y a plus le chaos de la ville, les bruits du quartier, les harangues des vendeurs et les chansons des gamins. Tout est silencieux, tout ce que l'on entend sont les sons autorisés, c'est-à-dire les voix des maîtres qui lisent depuis le couloir et d'une manière monocorde aux enfants enfermés. Les insultes des gardiens qui font hâter le pas et les claquements secs des mécanismes des serrures. On entend aussi le bruit des coups, des plaintes et des pleurs. Je me retrouve dans une cellule individuelle de quelques mètres carrés avec une seule et unique petite fenêtre. Comme chacune des autres cellules, celle-ci ne laisse voir que la chapelle intérieure, sans aucune vision au-delà de la prison.
Des registres qui nous parviennent de la Petite Roquette, le régime carcéral était un peu particulier puisque cette tôle a vu passer quasi toutes les écoles théoriques de l'enfermement.
Visiblement, elles partaient toutes du principe que le gamin devait être sorti de son environnement familial et des meutes juvéniles qui habitaient les faubourgs à l'époque.
Ajoute à ça toutes les idées hygiénistes et pseudo-sociologiques de contamination par l'environnement et on comprend vite le tableau.
Ouais.
Globalement, la Petite Roquette avait l'air de fonctionner selon le système Obiangin. L'isolement en continu, sauf le temps de travail qui se fait en silence. Pas que, j'ai l'impression que pendant 4 ans, la direction a tenté le régime de Philadelphie, c'est-à-dire l'isolement et le silence total toute la journée.
Avec un résultat hyper glauque d'un taux de mortalité de 12% des enfants détenus.
Fort heureusement, Émile a échappé à cette période de la Petite Roquette. Il sort au bout d'une semaine et le registre d'écrou notifie même que c'est sa mère qui est venue le récupérer, ce qui avait l'air d'être un fait assez rare si on s'en fie aux documents.
Il devait donc y avoir des liens familiaux forts chez les Delagrange.
Le passage à la case prison, comme l'armée ou la galère du travail, c'est assez commun pour les jeunes de mon quartier. Même si on essaye de briser le cercle, la galère, l'exploitation, puis la mort, c'est le lot de notre existence. Le 14 novembre 1898, je suis de nouveau arrêté, cette fois en compagnie d'Antoine Lacan. Antoine, c'est mon voisin qui habite au 28 rue de l'Aveyron. C'est le frère de Gênes avec qui je m'étais fait arrêter l'année précédente. Lors de l'audience, le juge décide de lancer une commission rogatoire et nous place en détention préventive. Je passe à nouveau par le service d'anthropométrie qui me trouve juste quelques centimètres de plus et les traces d'un début de tatouage à l'intérieur de mon bras droit. Nouveau passage à la Petite Roquette et nouveau numéro d'écrou, cette fois le 889. Cette fois-ci, je ne connais pas ma date de sortie. comme je reste en attente de mon jugement. C'est finalement le 19 décembre que je comparais devant la 9e chambre du tribunal correctionnel de la Seine. La justice différencie ma peine de celle d'Antoine, qui est majeur depuis quelques mois maintenant. En ajoutant sa situation de récidiviste, il est condamné à un an ferme. Comme je n'ai que 14 ans, le juge considère cette fois que je ne suis pas discernant et décide de me condamner à rester en maison de correction jusqu'à mes 20 ans révolus.
J'ai la conclusion de la commission rogatoire dressée par les agents du comico de quartier. Le plus jeune a toujours eu de mauvaises fréquentations et préfère ne pas travailler. Le père absent ne peut exercer son autorité. La mère faible de caractère, sans être indigne de l'autorité paternelle, il serait utile de mettre l'enfant dans une maison de correction.
Mais, du coup, ça veut dire qu'il l'envoie où ?
Visiblement en colonie de pénitentiaire. C'est pas nouveau à l'époque. La première se met en place vers 1840. C'est un peu l'alternative à la cellule individuelle, à la petite roquette.
C'est pratique, en plus on extrait les jeunes des classes dangereuses hors des villes.
Et ça fait de la main-d'œuvre bon marché pour les grands propriétaires terriens des campagnes en échange d'un peu de thunes par détenu pris en charge par chaque jour.
En tout cas, ce genre de condamnation a l'air de trouver son public parmi les juges, parce que je vois partout la mention chez les jeunes de se faire condamner à la 21e. Comme là, un bifton signé par la fouine de Seine-Saint-Denis. S'il me file le 21e, je ferai rappel parce que j'en ai marre de rester dans une cellule toute la journée. On serait mieux à se baigner avec les amis. Mort aux vaches, courage et sang, vive la classe, vive la liberté.
Je suis sorti de ma cellule le 2 mars 1899, après 5 mois d'hiver en cellule, pour être confié à un signaleur de m'amener à la colonie de Bologne, en Seine-et-Marne. Pour rejoindre la colonie depuis la gare, il faut traverser le petit village à pied avant d'en sortir et de traverser des paysages de champs de céréales à perte de vue. Autour, des bois recouvraient de petites collines. Au milieu de cette scène se dressaient les murs en briques rouges, la colonie pénitentiaire, qui est en réalité une grande forgerie. En s'approchant, on entendait les bruits d'usines, d'engrenages, de casernes, des ordres braillés et des marches cadencées au rythme des tambours. Comme à la petite roquette, l'accueil se fait selon un protocole minutieux. On m'enregistre dans les fichiers de la colonie. Je dépose mes affaires personnelles avant de récupérer mon paquetage. Galoches dans lesquelles on restait pieds nus, sans chaussettes ni guêtres, même l'hiver. Un bonnet de police et un uniforme gris pâle. Le mien était déjà bien rapiécé. Mais j'ai ensuite droit à une inspection sanitaire et une nouvelle coupe de cheveux avant d'être emmené devant le directeur pour un entretien. Le but est visiblement de m'impressionner et de m'expliquer les règles et l'échelle des sanctions, mais aussi des gratifications. Il a toute une grille de peines en fonction des insubordinations. Elles allaient de l'avertissement, de l'amende, des restrictions alimentaires, aux peines de cachot et aux jours de pain sec. Les journées sont réglées à la minute dans la colonie, il n'y a aucun temps mort. Devons nous lever à 5 heures du matin, mettre notre uniforme réglementaire et ranger nos lits. 5h10, c'est la prière avec l'aumônier. 5h15, descente des dortoirs. Chaque mouvement dans la colonie, chaque changement d'activité est annoncé et rythmé à grands coups de tambour et aux appels du clairon. Les déplacements se font en colonne et à l'allure militaire. À 5h20, pour les premiers communiants, se déroule le catéchisme. Les autres s'engouffrent dans les ateliers pour une première séance de travail. Quand arrivons-nous pour la première fois dans la colonie ? Nous sommes tous étudiés par les contremaîtres et les responsables d'ateliers selon notre âge, notre force et nos aptitudes déjà acquises. Selon ces critères, on est répartis vers l'atelier des limeurs-ajusteurs, celui des polisseurs, celui des sécateurs, celui des machines ou affectés dans le service généraux de la colonie. En tout, je connais une vingtaine de gamins qui tiennent différents postes au nettoyage, aux cuisines, aux vestiaires. À 7 heures, il y a les premières pauses et sorties des ateliers, ainsi que la distribution d'un morceau de pain lors d'une petite récréation de 20 minutes avant de retourner à l'atelier. Dans le même temps, un groupe rejoint la salle de classe. On se relaie par groupe de 25 dans la petite salle où un instituteur nous apprend pendant 1h30 les bases de la lecture, le calcul et les connaissances civiques. Les plus grosses têtes sont présentées en fin d'année au certificat d'études. À 9h, nous avons 30 minutes pour déjeuner une panade, puis une petite demi-heure de récréation où les surveillants organisent souvent des exercices militaires ou sportifs. À 10h, commence la troisième séquence de travail, en atelier, qui est interrompue, au bout de 2 heures, par un quart d'heure de récréation. C'est seulement à 14h que les clairons nous emmènent au réfectoire pour la pitance de légumes qui était prévue chaque midi. À 15h, le travail reprend avec le même fonctionnement, jusqu'à 19h, où le clairon signifie la fin de la journée de travail. Après une courte récréation, il est temps de manger une soupe améliorée, c'est-à-dire que dans l'eau de cuisson, le cuistot avait fait tremper un morceau de viande qui procurait un autre goût à la gamelle. Après une dernière prière avec l'aumônier, l'heure de se secouer arrive à 20h30. Les journées s'enchaînent de la sorte pour nous, du lundi au samedi. Le dimanche, un jour chômé. Mais cela ne veut pas dire que nous faisons rien pour autant. Le travail est remplacé par des séances de catéchisme et d'entretien religieux, ainsi que par des exercices physiques. C'est aussi le dimanche que nous pouvons faire notre toilette hebdomadaire. Mais surtout, cette journée est particulière parce que c'est aussi celle de la remise des récompenses et des punitions dans la cour, en rang et en silence. Le dirlo et les surveillants effectuent la revue des effectifs et listent un par un les bons points ainsi que les punitions de la semaine.
Vraisemblablement, un journaliste a visité la colonie de Boulogne en 1904.
Il y a une trace de ce qu'il en dit ?
Alors on n'a pas tout, mais on a au moins la description du cachot. Ce sont des réduits étroits, sorte de souterrain, situé au fond d'une cave humide, où l'on accède en descendant quelques marches. La lumière et l'air y sont distribués fort parcimonieusement. Et l'on peut dire que l'obscurité presque complète y règne pendant la plus grande partie du jour.
Fais voir. Alors, il trouve le moyen de s'émouvoir. Il dit « J'estime qu'un séjour prolongé dans ces espaces, dans ces impasses, est des plus préjudiciables à la santé des pupilles qui y sont enfermées et il est aisé de concevoir comment, dans de jeunes cerveaux d'enfants livrés pendant des jours à cette terrible solitude, naissent les pires sentiments de haine contre la société » qu'ils font responsables de leurs maux.
Ce que je comprends pas, c'est que Bebe nous avait parlé de mutinerie et j'en trouve trace nulle part.
Attends, je le rappelle pour voir où il en est.
Ouais, j'ai beau fouiller, y a rien qui ressort.
Allô ? Allô ?
Ah, mais oui. Ça y est, mais t'es où ? Allô ?
Ouais, bah alors, je suis sous une table de la salle de lecture. Je crois que le vigile m'a rodave de ouf, mais bon, j'ai réussi à le semer. Vous en sentez ?
On a vu pire.
Dis, dans ton résumé, t'avais parlé de mutinerie, t'as vu ça où ?
Alors, dans les archives de l'année 1900, il y a plusieurs coupures de journaux qui mentionnent une mutinerie à Bologne.
Je cherche.
Alors, si ma mémoire est bonne, c'était le 22 avril. Les gendarmes ont été appelés en urgence par les matons qui voyaient les rangs commencer à partir en live. Les gamins chantaient des chants séditieux et tout. Il y a un atelier ou deux qui ont cessé le travail. Il y en a qui se sont barrés pour aller piquer des bouteilles et picoler dans le village d'à côté. Et en tout, il y a une quarantaine de gosses qui arrivent par différents moyens à partir en cavale.
Ah, ça y est. Dans Petit Champenois et l'avenir de la Haute-Marne, paye ton titre, ça en parle. Une personne présente qui se trouvait dans la colonie dit que les colons, lorsqu'ils aperçurent les gendarmes, se mirent à les accueillir par des épithètes les plus malsonnantes. Les révoltés, presque tous originaires de la Seine, furent fouillés minutieusement. Certains avaient pu cacher des couteaux.
Et c'est loin d'être la seule. Ça a pété à nouveau entre le 30 juin et le 1er juillet quand des gamins ont tabassé des surveillants et ont été transférés à la prison de Chaumont pour inciter...
C'est pas vrai, ça a encore coupé, putain.
Le vendredi 11 octobre 1901, après la soupe de midi, avec mon copain Louis Potemain, nous nous faisons la malle derrière les bâtiments. Louis, qui a 17 ans comme moi, est colon à Bologne depuis déjà 5 ans. Après avoir fait la courte échelle pour passer le mur, nous contournons le bâtiment avant de courir à travers les champs. L'objectif était de traverser la Marne, puis de se réfugier dans la forêt plantée sur les coteaux en attendant la nuit tombée. Des équipes composées de gendarmes et de gardiens, aidées d'ouvriers et d'habitants, nous cherchent en vain toute la soirée et jusqu'à tard dans la nuit. Après quelques temps, nous finissons par voler quelques vêtements pour passer inaperçus et remontons vers le nord en suivant la vallée de la Marne.
Et elle finit par mener où cette cavale, on le sait ?
Bah, pas vraiment, enfin oui et non. On sait pas bien ce qu'a pu faire Émile pendant ces 10 mois de cavale, où il est allé et qui il a pu fréquenter. On sait juste qu'elle s'est terminée le 27 juillet 1902, date à laquelle il est interpellé et ramené à la Petite Roquette, où nous retrouvons sa trace dans le registre de la tôle.
Il n'y a pas de registre conservé au commissariat de Charonne ?
Non, le dossier est manquant. On sait juste que le contexte était plutôt chaud dans le faubourg de Paname depuis juin 1902. Les affrontements entre la police et les bandes d'apaches étaient visiblement bien vénères et la répression judiciaire et pénale tout autant. J'ai l'honneur de vous rendre compte que le pupille de Lagrange, évadé de la colonie de Bologne le 11 octobre 1901 et réintégré le 5 août dernier, est actuellement une cause de désordre dans l'établissement. Après avoir été pendant plus de 10 mois en évasion, ce pupille, qui auparavant avait déjà une mauvaise conduite, est revenu avec des idées de libéralisme très avancées. Robuste, intelligent, instruit, dès son retour, il a voulu conduire ses camarades et se constituer parmi les plus forts et les moins bons, une sorte de garde d'honneur. Par menace, il oblige des camarades à fabriquer des armes et il est facile de deviner dans quel but. Ceux qui ne veulent pas obéir sont l'objet d'une basse vengeance de la part de ce garnement ou de ses acolytes. Mis en cellule depuis le 26 septembre, son action néfaste en persiste pas moins et j'attribue toutes les évasions du mois de septembre à la terreur qu'il inspire. En conséquence, conformément à l'article 107 de l'arrêté du 15 juin 1899, j'ai l'honneur de vous demander que le jeune de Lagrange soit dirigé sur une colonie correctionnelle pour y être soumis à un régime répressif. Non mais là, la photo de Bebe, elle est vraiment dégueulasse avec son vieux flash de téléphone. Mais c'est hyper intéressant, cette lettre du Dirlot de la colonie de Bologne.
Il écrit à qui ?
À la direction de l'administration pénitentiaire.
Ah ouais, la réintégration dans la colonie, c'est pas hyper bien passé pour Émile. Avec quelques camarades, il essaye de faire se révolter les ateliers. Il chauffe tout le monde pour en découdre, avec les matons. Et il écope d'un nombre de jours de cachot assez hallucinant.
J'ai l'impression qu'un plan d'évasion était en cours de route début 1903 pour Émile et les autres Lascar. Louis Gilman, Léopold Baugé, Louis Sanson et Charles Potier. Avant qu'ils se fassent pouca avec la direction ne précipite leur transfert disciplinaire. Scream your sadness.
Vient l'enfer, DS, colonie correctionnelle. J'ai rapidement compris qu'on m'y envoyait comme toutes les fortes têtes des colonies pénitentiaires. Déjà, le trajet fut rythmé par les haies d'honneur des matons des différentes tôles dans lesquelles nous faisions étape. Une manière de nous faire ramasser pour nos précédentes mutineries. Après l'interrogatoire de rigueur avec le Dirlo, on m'envoie en quartier cellulaire pour une période d'observation. Le quartier cellulaire est composé de 52 cellules de 4 mètres sur 2,25 mètres de superficie pour 3 mètres de hauteur. La lumière filtre à peine par une petite fenêtre placée à 2 mètres du sol qui fait face au mur d'enceinte. Une fois par jour, on nous sort dans une des 4 cours isolées pour une récréation et une toilette. 30 jours de la sorte. L'emploi du temps était le même qu'à Bologne, mêmes activités, même rythme. Comme à Bologne, le but est de nous inculquer les bases d'un métier. Ici, il paraît que j'apprends le métier de cultivateur. Comme à Bologne, les mêmes punitions, les mêmes récompenses. À la différence du cachot, qu'on appelle la basse fosse. Un sombre caveau, étroit et sans jour, auquel on accède par un escalier en pierre de 18 à 20 marches. Pas de fenêtre, pas de bas-flanc. Le tour du propriétaire est vite fait. 3 pas en long, 2 en large. On y va pour un tout ou pour un rien. Regarder par la fenêtre donne lieu à 4 jours sans gamelle. Bavarder avec des colons d'autres cellules vaut 8 jours et proférer des menaces envers un surveillant 8 également, dont les 3 premiers passés avec les menottes. Impossible de bouger. Réduit à l'échelle, la gamelle ou le sol pour se nourrir et à se chier dessus. Nous sommes tous en très mauvaise santé. Début septembre, mon camarade Louis Gilman meurt. Il n'a alors que 17 ans. Je sors d'EIS le jour de mes 20 ans, le 24 février 1904, avec un pécule de 11,89 francs et un trousseau de 42,90 francs. Je remonte alors à Paris pour y retrouver Sharon, mes amis et ma sœur. Mes parents, quant à eux, sont morts pendant mon incarcération.
Hey, mais t'as réussi à sortir ?
Attends, je reprends mon souffle.
Bah Vincent, dis, t'es arrivé quoi ?
Il m'avait laissé une porte pas bien fermée, mais ça donnait sur l'arrière du bâtiment.
Et la sécu ?
J'ai un doute si elle m'a pas vu, ma gueule, mais bon, au moins j'ai fini par arriver. Bon, c'est cool, non ? Hein ? En vrai, c'est pas mal. En plus, j'ai encore des choses pour vous. Vous en avez tout ?
Le retour de Milou à Paris après.
Ah, mais nickel, j'arrive au poil alors. Bon, je vous laisse reprendre le temps que je respire, parce que putain, le bordel, cette soirée.
Donc, on disait que techniquement, les anciens prisonniers à la 21e devaient rentrer dans leur ville d'origine et faire leur service militaire.
Sauf que Milou ne l'a pas fait, on a zéro trace.
Jusqu'à cette brève du petit journal, les assassins de Saint-Mandé. 3 mois plus tard, qui dit « Nous avons dit hier que les 3 individus qui ont tenté d'assassiner le 3 mars dernier la bonne du docteur Ducat à Saint-Mandé avaient été arrêtés par le service de la sûreté. L'un de ces malfaiteurs n'était connu que sous le nom de Berlingot. Le service de sûreté vient d'établir son identité. C'est un nommé Émile Delagrange, dit aussi Milo. 46, âgé de 20 ans, demeurant rue de Charenton.
Une affaire de vol qui a mal tourné chez un médecin de Saint-Mandé et qui se retrouve qualifié en cambriolage avec tentative d'homicide. Visiblement, une servante qui a été assommée pendant la durée du cambriolage.
C'est ainsi que le jeudi 12 mai 1904 fut le dernier jour de liberté pour Émile Delagrange. Il est alors incarcéré à la prison de la Santé en attendant son procès.
Lors de mon procès, le juge regroupe l'ensemble des affaires qui sont liées de près ou de loin à mon nom. Des plus petits vols au cambriolage de Saint-Mandé. L'affaire fait le tour des journaux à sensation et ses rebondissements alimentent les chroniques judiciaires. Le tribunal ne lésine pas sur les peines, qu'il n'individualise pas et prononce la peine de travaux forcés à perpétuité. Je refuse ma condamnation et fait appel de sa décision qui passe en cour d'appel le 4 janvier 1905. Le président des assises décide de commuer ma peine à 10 ans de travaux forcés. Au fond, 10 ans de travaux forcés ou la mort, quelle différence ! C'est bien la mort qu'on me promet.
Au bagne, c'est 10% par an et l'espérance de vie inférieure à 6 ans.
À partir de sa condamnation, c'est assez facile de suivre la trace de Milo.
Ouais, vu que tout départ pour les bagnes de Kanaky ou de Guyane se passe depuis l'atoll de Saint-Martin-de-Ré sur l'île du même nom, dans la base de La Rochelle.
De fait, il y avait à la fois les colonies pénitentiaires, théoriquement un peu moins surveillées, et les bagnes coloniaux.
Mais en vrai, il n'y a quasi aucune différence entre les deux. Ils partagent les mêmes objectifs d'exploitation pour aménager les colonies.
Alors, même selon les derniers papiers que je vous ai ramenés, le bateau qui a transporté Milo et 300 autres forçats, le Loire, les fait embarquer le 30 mai 1905 et débarquer le 21 juin sur les îles du Salut en Guyane.
Arrivé dans l'enfer vert, on me voit au camp Roche, un vaste chantier de déboisement de la jungle afin de rendre le territoire viable pour les colons. On nous réveille à 5h du matin, au son du clairon, et la revue d'effectifs a lieu dans la cour. Le travail débute à 6h du matin quand il fait relativement frais et ne cesse une première fois qu'à 10h. Après un repas bien maigre et un nouvel appel, le travail reprend à 13h pour finir à 17h. Le mercredi 16 août, en fin d'après-midi, je prétexte d'aller chercher de l'eau pour tenter de fuir. J'abandonne mon seau et je récupère un sac que j'ai préalablement planqué aux abords du camp. Je suis repris après 3 jours de cavale dans la jungle, sans nulle part où aller, extrêmement affaibli. Au bagne, les peines sont hiérarchisées. Plus les fautes sont graves, plus les peines grimpent dans l'échelle de l'administration. Cela va de nuit de prison en cellule à la journée complète attachée à la cheville au pain sec et à l'eau. Pour les infractions les plus graves, la tancière peut décider de nous envoyer sur les chantiers les plus durs, les camps des incos pour incorrigibles. Dans certains chantiers, les matons se distinguent par leur manière de punir les évadés. Ils les ramènent avec des doigts, des mains ou autres membres en moins. Sacrée dissuasion. Personnellement, je mange 2 ans de travaux supplémentaires pour ma cavale lorsque le tribunal se réunit en 1906.
Ensuite transféré à Saint-Laurent du Maroni, puis envoyé à Saint-Maurice, un peu plus en amont du Maroni.
Globalement, à en croire les documents de la pénitentiaire, leur journée consiste à abattre les arbres pour créer des parcelles agricoles.
Toutes ces années de bagne, on peut suivre Milo à la trace des rapports que font la paix sur lui. Il écope de jours de cachot hyper régulièrement.
Après, les motifs varient un peu et je trouve qu'on remarque presque un changement de perspective chez lui. On passe des refus d'autorité francs à une paresse au travail.
Si on additionne toutes ces journées de cellules et de cachot, pour la seule année 1908, il a passé près de 4 mois et demi à l'isolement.
Ouais, et de nouveau, la pénitentiaire décide de le transférer dans la partie disciplinaire de la Guyane, c'est-à-dire un retour aux îles du Salut.
Mais au moment de son transfert, j'ai l'impression qu'il n'est plus en état d'être déplacé, enchaîné. Il aurait contracté une pleurésie. Du coup, il l'envoie au camp des Hattes, une sorte de mouroir pour les impotents et malades du bagne, au lieu de l'estuaire du Maroni.
En octobre 1909, je suis finalement amené sur les îles du Salut. Elles comptent trois petites îles de pas plus de 30 hectares en tout. L'île Royale, l'île du Diable et l'île Saint-Joseph. Sur l'île Royale, j'essaye comme je peux de me faire un peu de fraîche pour pouvoir vivre, notamment avec des jeux de cartes, de hasard et de paris. Sur l'île, nous sommes tous ivres du jeu qui rythme les soirées et les nuits dans nos cases, sous étroite surveillance des pires matons de la tentière. Ils nous laissent faire pour avoir la paix, même s'ils causent parfois violence, voire des meurtres entre nous. Jouer est techniquement interdit. Je suis d'ailleurs condamné à 15 jours en cellule le 17 janvier 1910 pour avoir joué aux cartes. Cela me vaut un transfert vers l'île de Saint-Joseph, où j'enchaîne un mois et demi d'isolement pour une rixe avec un autre bagnard. Je suis finalement transféré à Kourou à cause de l'escalade de violence entre certains détenus et moi, qui se solde par une mort.
Après ?
Eh bah, c'est l'ultime document sur lequel figure le nom de Milo. Encore un document de la paix, sans surprise. Tiens, j'ai un peu de mal à le lire.
On écrit des surveillants Quesnot et Deville qui déclarent qu'Émile Delagrange, surnommé Milo, âgé de 27 ans, est décédé dans la commune de Kourou à 2h30 du matin.
Attends, en fouillant un peu plus, on trouve qu'Émile a été poignardé par un de ses co-détenus qui portait le numéro de matricule 35464 et se nommait Félix Apolis.
Finalement, comme partout ailleurs, quand les bagnards se bouffent entre eux, c'est la pénitentiaire qui gagne.
Et comme quand quelqu'un meurt en prison, de Paname à Kourou, quelles que soient les circonstances, c'est toujours l'administration et la justice qui sont responsables.
Cette émission se termine ainsi, mais pour autant, cette dernière partie reste ouverte. Il y a tant de choses à dire, à interroger. Espérons que le récit de la vie de ce petit parigot pourra nous servir à échanger sur l'incarcération des mineurs et sur l'enfermement de manière générale. Les traces que Milo nous laisse, ses révoltes, sa rage, résonnent avec les colères qui tonnent autour de nous. Puissent-elles nous servir à faire notre route sans baisser la tête et à détruire ce qui nous enferme ? C'était Milo, l'incorrigible, adapté par l'équipe de Minuit Décousu.
Un gros big up au collectif L'Escapade pour le travail de recherche d'archives et l'écriture, et à Niet Édition pour la publication.
Une énorme pensée à toutes les personnes enfermées, et particulièrement à tous les minots qui croupissent dans les établissements pénitentiaires pour mineurs, les centres éducatifs fermés, renforcés, les HP et les internats. On pense fort à vous tous.
Une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle.
À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h,
sur Radio Libertaire 89.4 FM.
Carapatage, contre toutes les cages.